Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée aujourd'hui, ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, elle était la tête de liste de la majorité présidentielle aux dernières élections européennes, élue eurodéputée. Nous voulions l'entendre alors que se poursuivent les auditions des futurs membres de la Commission devant le Parlement européen. La candidature de Sylvie Goulard, le dossier du Brexit, la politique d'immigration, beaucoup de sujets que nous allons aborder avec elle. Nathalie Loiseau s'est installée dans le studio de Questions politiques, elle qui est également la présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen. Autant dire qu'elle connaît bien les enjeux de la lutte antiterroriste et que nous l'interrogerons évidemment sur la tuerie à la préfecture de police de Paris. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions politiques, Ali Babi.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Et bienvenue à mes côtés pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde et toutes.
Bonjour. Dans l'autre sens, c'est toutes et toutes.
Bonjour Ali et bonjour à toutes et toutes.
Bonjour Françoise, Karine Bécart de France Inter. Bonjour Karine.
Salut à tous.
Karine qui a préparé votre portrait, Nathalie Loiseau. Nous le découvrirons ensemble dans quelques minutes. Je le disais, vous êtes présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen. La question du terrorisme et du terrorisme islamiste est revenue dans l'actualité jeudi avec cette tuerie à la préfecture de police en plein cœur de Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe renouvelle ce matin sa confiance à Christophe Castaner dans le journal du dimanche. Longue interview et ça pose des questions, Nathalie, notamment sur la manière dont on peut lever le doute.
Effectivement. Est-ce que vous ne trouvez pas que Christophe Castaner, en se précipitant d'une certaine manière et en communiquant, en disant qu'il n'y avait aucun problème dans le passé du fonctionnaire qui avait tué un certain nombre de ses collègues, est-ce qu'il n'est pas allé trop vite une fois de plus?
Il a dit ce qu'il savait au moment où il le savait.
Oui, mais le préfet de police a été beaucoup plus prudent en disant certes, c'est la criminelle qui enquête, mais on est en liaison avec le parquet terroriste. Est-ce que c'était pas mieux d'être prudent, comme c'était mieux d'être prudent à la Pitié-Salpêtrière, ou du moins de ne pas se précipiter pour communiquer?
Alors, d'une part, je vous rappelle que face à un événement aussi dramatique, aussi tragique, la première chose qui se passe, c'est que les micros se précipitent. Le temps de l'enquête, aujourd'hui, on est assez impatient d'avoir des premiers éléments. Deuxième chose, si le tueur était si connu comme étant radicalisé, là, il y aurait véritablement un sujet. Moi, je me souviens, le jour de l'attaque, d'avoir entendu des syndicalistes de la police dire « agent exemplaire, aucun problème de comportement ».
Et ça nourrit, ça nourrit l'inquiétude et l'idée chez les gens qu'on leur cache des choses.
Non, alors, ça nourrit l'inquiétude et l'idée. Il y a un climat un peu complotiste, très souvent inquiet, souvent nourri par ceux qui vivent de la peur et qui disent en permanence « on vous cache des choses ». Christophe Castaner, il a dit ce qu'il savait au moment où il le savait. Il a ensuite, avec le Premier ministre, demandé non seulement bien sûr une enquête sur le meurtre de tragique de 4 personnes, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, mais le Premier ministre a aussi demandé une enquête à l'intérieur de la préfecture de police pour savoir si une faute a été commise. Si cette radicalisation était connue et n'avait pas été transmise aux autorités compétentes.
Ce qui serait
là, il y aurait un énorme sujet. Parce qu'on parle de la préfecture de police, on parle de la direction du renseignement, et on parle de quelqu'un qui était habilité au secret des forces.
Ce serait possible.
Mais justement, en fait, on a le sentiment qu'il y avait la volonté de cacher quelque chose, parce que ça ne pouvait pas avoir lieu à cet endroit-là.
Écoutez,
de la part des policiers, on sent qu'il y a la volonté de cacher.
Quel pourrait être l'intérêt à cacher? Quand vous êtes policier, vous avez perdu 4 de vos collègues, en très peu de temps, en quelques secondes comme ça, vous êtes traumatisé. La préfecture de police, c'est l'endroit où vous pensez que ça ne peut pas arriver, effectivement. Moi, j'attends de voir et je me garde de parler de ce que je ne sais pas. Aujourd'hui, la grande mode, c'est d'avoir un avis sur tout et surtout un avis. Moi, je ne sais pas. Quand je vois qu'on va enquêter pour voir s'il y a des signes de radicalisation manifestes à la préfecture de police ou dans d'autres lieux où des questions confidentielles sont traitées, nous met aussi en garde, parce que pour bien connaître le terrorisme islamiste, pour avoir un souvenir précis des attentats qui ont pu avoir lieu depuis maintenant malheureusement plus de 10 ans, vous avez aussi des terroristes avérés qui sont extraordinairement forts dans l'art de la dissimulation. Il était rare que des terroristes prennent l'avion avec une barbe hirsute, avec un camis et en chantant des sourates. Attention aussi à ne pas entrer dans l'idée que le terrorisme, ça se voit, parfois ça ne se voit pas. En général, quand vous avez à l'esprit, quand vous préméditez un acte criminel, vous ne vous en vantez pas partout avant de le commettre.
Il y avait quand même des éléments contradictoires, en fait, là, parce que je vous entends très bien, effectivement, personne, comme ce policier, donc sans histoire, qui ne posait pas de problème, etc. On avait quand même déjà un faisceau d'indices sur sa conversion à l'islam, sur le fait qu'il ne saluait pas les femmes.
Attention.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, bien sûr.
Je n'en sais rien. Il y a une enquête en cours. Moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas les informations qui me permettent d'en décider, d'en juger. Je nous mets simplement tous en garde. Tous ceux qui savaient mieux que personne et qui auraient pris des décisions différentes, ils sont en général bien au chaud chez eux. Je nous mets vraiment en garde contre les jugements hâtifs et contre cette tendance générale à avoir un avis sur tout, y compris sur des questions très complexes, à s'exprimer partout, y compris devant des micros, et à entretenir ce climat de suspicion qui fait du mal à tout le monde, aux médias, aux politiques, aux experts, à notre société, à notre démocratie.
Françoise Pressoz.
L'affaire montre quand même la difficulté de la lutte contre l'islamisme radical. Est-ce que, d'une façon générale, Emmanuel Macron n'est pas à découvert sur toutes les questions régaliennes qui préoccupent énormément les Français et alimentent cette énorme défiance qu'on sent aujourd'hui dans la société française?
Nathalie Loiseau.
Mais nous sommes tous face à ce défi. Il ne peut pas y avoir de risque zéro en matière terroriste. Ce que nous avons à faire, chacun dans nos responsabilités, moi aux miennes en Europe, c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Mais le risque zéro n'existe pas. Écoutez ceux qui nous disent le terrorisme, c'est forcément une conséquence des migrations. Regardez le tueur de la préfecture de police. Un Français, antillais, il n'est pas venu de Syrie, il n'est pas venu d'ailleurs. Et d'un seul coup, en quelques secondes, il s'est transformé en assassin. Il n'y a pas de risque zéro. C'est tragique de dire ça aujourd'hui quand on pense à la fois aux quatre personnes qui sont mortes, à leur famille. Quand on pense aussi à ce très jeune policier qui a eu une attitude tout à fait exemplaire.
Policier stagiaire, oui.
Tout à fait exemplaire. C'est très difficile de dire, face à un risque de cet ordre, on va protéger les Français, les Européens, les Occidentaux, et ça n'arrivera plus jamais.
Mais c'est pas ce que Françoise voulait dire.
Enfin,
si je puis me permettre d'interpréter la pensée fressosienne, c'est, je pense simplement que on entend assez peu Emmanuel Macron sur ce genre de sujet. C'est-à-dire donner un certain nombre de lignes qui mènent son action, qui guident son action. C'est un sujet, on l'a entendu parler d'immigration, très bien, vous venez nous dire que ça n'a pas de rapport, on est totalement d'accord. On l'entend parler d'un tas de choses. Là-dessus, on ne sait pas exactement ce qu'il pense et où il veut aller.
Je suis pas d'accord avec vous. J'ai en revanche le souvenir vivace, parce que j'étais encore au gouvernement, du moment où le gouvernement a passé une loi pour permettre qu'un certain nombre de mesures de l'état d'urgence puissent entrer dans notre dispositif législatif. Que n'a-t-on pas attendu à l'époque sur un gouvernement liberticide qui voulait restreindre
les libertés? Il y a un rapport parlementaire, Madame Loiseau, qui a été fait sur les possibles infiltrations dans les administrations et la police. On n'en a pas entendu parler énormément, sauf maintenant. On attend aujourd'hui pour savoir qu'il y aura deux missions diligentées par le Premier ministre. Est-ce que ça n'a pas un peu traîné, c'est ça?
Vous savez, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas toujours sur la place publique non plus. Il se trouve que dans des responsabilités antérieures, j'ai été confrontée, par exemple, à un collaborateur qui s'était radicalisé et qui avait eu la bonne idée de me menacer de mort. Je ne suis pas allée sur la place publique pour raconter ça. J'ai travaillé avec les services compétents pour faire en sorte que cette crise qui me menaçait, mais pas que moi, puisse être surmontée.
C'était dans quel cadre?
Et c'était quand?
Je vous dirai pas tout parce que...
c'était récemment?
C'était il y a quelques années. C'était il y a quelques années. Bien sûr, ça peut arriver de quelqu'un d'entre guillemets insoupçonnable, évidemment.
Que faire? Est-ce que vous comprenez, par exemple, que le Sénat décide de mettre en place une commission d'enquête sur cette question? Est-ce que vous comprenez aussi que ça devienne un enjeu politique quand vous entendez les appels d'un certain nombre de responsables, et notamment des Républicains, appelés à la démission du ministre de l'Intérieur?
C'est à combien de fois qu'ils appellent à la démission du ministre de l'Intérieur? Franchement, depuis 2017...
Chaque fois qu'il y a un petit faux pas.
Il n'y a pas une semaine... Un faux pas ou simplement une crise, comme s'il y avait des démiurges, des gens qui pouvaient tout prévenir, tout contrôler. Moi, je note que c'est de la polémique politicienne, que ça ne vole pas très haut. Moi, c'est moins d'une commission d'enquête parlementaire dont j'ai envie que d'une enquête judiciaire. Laissons les
La commission d'enquête parlementaire ne sert à rien ?
Écoutez, c'est au Parlement d'en décider. Je suis moi-même parlementaire aujourd'hui. Simplement, j'ai aussi pleinement conscience de là où s'arrête mon expertise et là où des enquêteurs, des magistrats ont tout leur rôle à jouer. Laissons-leur faire leur travail.
Vous avez un discours fondé sur la raison et fondé au fond sur la reconnaissance que on ne peut pas tout quand on est un politique et qu'on ne sait pas tout. Est-ce que vous pensez que c'est audible ce genre de discours dans l'effervescence d'aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut se poser des questions sur l'effervescence d'aujourd'hui, savoir où est-ce qu'elle nous mène, d'où elle vient. Moi, j'ai pas honte d'avoir un discours fondé sur la raison et je vais pas me lancer dans une espèce de populisme à deux balles pour faire plaisir aux complotistes ou à ceux qui vivent de la peur. C'est très facile d'être commentateur sur une chaîne d'infos en continu et de dire toute la journée ce qu'on pense de tout et de n'importe quoi de manière complètement irresponsable.
Mais l'impatience de nombreux citoyens, Nathalie Loiseau, elle peut être légitime. Cette impatience, cette envie de comprendre,
elle est parfaitement légitime.
Pour répondre à la peur.
Elle est parfaitement légitime. Et de ce point de vue-là, la transparence, l'explication, je vais faire un parallèle qui peut être douteux, parce que si je parle de Lubrizol, il y a à la fois des voisins de l'usine qui a brûlé, qui sont traumatisés, et je le comprends parfaitement, quand vous vous retrouvez couvert de suie, quand vous savez que les produits agricoles d'une région peuvent plus être commercialisés, c'est traumatisant. Mais là où je dis que le parallèle est douteux, c'est quand même qu'il n'y a pas eu un seul mort, une seule victime. Il y a eu aussi une impatience. Ce qui compte,
c'est l'impatience, c'est presque une défiance par rapport à ce que pouvait dire le gouvernement. Vous nous parlez, vous nous racontez n'importe quoi.
Oui, mais cette défiance, elle vous touche aussi, vous médias, vous le savez comme moi. C'est un sujet de préoccupation pour la démocratie. Aujourd'hui, être un expert, ça devient un gros mot. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question, il faut qu'on regarde ce qui nourrit ça. Alors on dit, c'est les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils ont l'importance qu'on leur accorde. Vous savez tous que sur vos fils Twitter, sur vos pages Facebook, vous avez des gens qui interviennent, qui sont soit particulièrement peu équilibrés, soit particulièrement
manipulés. Attendez, il y a un effet de Tchernobyl aussi, la dernière fois, nous a dit que ça s'était arrêté, c'était des experts.
Alors ça, on est totalement d'accord.
Donc il n'y a pas simplement des dingues qui imaginent que tout va mal.
C'est-à-dire que la défiance vis-à-vis des politiques, elle n'est pas non plus infondée. Moi, j'ai un souvenir, là encore, très vivace de Tchernobyl et des conséquences, d'une brochette de ministres qui nous disait Tout va bien. Oui. Il se trouve que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a été malade d'un cancer dû à Tchernobyl. Je peux vous dire que là, si j'ose dire, un petit peu en travers de la gorge, tous ces ministres qui avaient défilé. Quand on ne sait pas, il faut avoir le courage de dire on ne sait pas.
Oui, mais malgré tout, il faut, et c'était la première question de Nathalie, lever le doute sur ce que savait le ministre de l'Intérieur dès jeudi.
Et donc, je prolonge cette question-là, est-ce que Christophe Castaner, malgré tout, la question va être très directe, est la bonne personne à la bonne place ?
J'ai aucun doute là-dessus. J'ai entendu d'ailleurs Édouard Philippe lui renouveler sa confiance.
Qu'est-ce qu'il a réussi jusqu'ici au ministère de l'Intérieur, par exemple ?
De la même manière que quand vous dirigez, par exemple, le contre-espionnage, on entend parler de vous quand il y a une difficulté. Regardez le G7 de Biarritz. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avant ? Il y avait un risque terroriste, il y avait un risque séparatiste basque, il y avait un risque d'altermondialisme, il y avait un risque de gilets jaunes violents. Il n'y a rien eu. Là, personne n'est allé dire, tiens, Castaner, quand même.
Donc, succès de Castaner. Quels sont les autres succès de Christophe Castaner depuis un an qu'il est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur ?
Mais tous les attentats qui sont évités, ce sont des succès sur lesquels il est très difficile d'aller sur un plateau et de dire, vous savez, on a arrêté telle et telle personne et on n'est pas passé loin, mais on y est arrivé. Sur toutes les filières criminelles qui sont démantelées, sur la sécurité des Français qui est assurée aussi bien que possible, malgré tout, et ça, je l'assume parfaitement, sur la façon de gérer des manifestations violentes pendant plus de 40 semaines, tellement de gens ont pensé qu'il y aurait des morts. Parfois même, certains l'ont souhaité. Il n'y en a pas eu. Alors, chaque violence est une violence de trop, chaque blessé est un blessé de trop. Mais face à des défis pareils, face à une police aussi traumatisée et aussi épuisée, franchement, allez prendre la place de Christophe Castaner et faites mieux. Moi, ça me paraît quand même un poste très difficile.
L'eurodéputé Renaissance Nathalie Loiseau est l'invitée de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et avant de parler d'Europe, Nathalie Loiseau, votre portrait signé Karine Bécard.
Vous n'avez pas mis longtemps, finalement, à vous relancer. Pourtant, votre image a été abîmée, vos propos vous ont cornérisé, mis de côté, mais peu importe. Vous avez continué d'avancer, Nathalie Loiseau, sans jamais vous retourner. On en aurait presque déjà oublié votre déclaration de candidature. Sacrément ratée, c'était lors des dernières élections européennes. Vous étiez face à Marine Le Pen et personne n'a vraiment compris si vous aviez sincèrement envie d'y aller ou si pour prendre la tête de la liste, vous y avez été forcément fortement poussé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'ancienne diplomate que vous avez été pendant des années s'est retrouvée étrangement seule dans l'arène politique. Vos amis, les jupéistes, ne vous ont jamais épaulé. Quant aux députés de la majorité, ils ont eux aussi assez vite déserté. Mal aimée, donc, Nathalie Loiseau, à moins que vous ne soyez trop gaffeuse, trop directe, trop féroce, trop sulfureuse, il aurait peut-être fallu accepter de changer, mais cela, jamais vous ne l'avez imaginé.
Des communicants, j'en ai croisé. Je les ai entendus me débiter les mêmes recettes qui sortiraient pour un séminaire de pâte dentifrice. Objectivement, ça ne m'intéresse pas.
Votre voix semble toute douce et pourtant le ton est étonnamment tranchant. Et c'est exactement ce que vous êtes, Nathalie Loiseau. D'un côté, vous apparaissez comme une enfant sage, assise sur le banc d'une assemblée et qui connaît parfaitement ses dossiers. Et puis de l'autre côté, vous avez un regard dur et des avis tranchés sur tous les plus hauts responsables avec lesquels vous vous devez de travailler. C'est évidemment ce qui explique ce qui est arrivé à l'ancienne ministre des Affaires européennes que vous avez été. Devenue en mai dernier eurodéputée, vous avez vu tous les meilleurs postes vous passer sous le nez parce que vous aviez trop parlé. Mais cela ne vous a pas fait vaciller. Vous avez même plutôt bien résisté. Vous avez continué d'avancer, même si ce n'est pas si simple la politique et que probablement cela s'apprend un peu finalement.
Nathalie Loiseau, réaction.
Bah vous m'avez pas raté, franchement.
C'est donc qu'elle a touché juste.
Forcément, on a tous des défauts, j'ai des faiblesses, j'ai des aspérités. Et je vais vous dire une chose, là vous avez raison, j'ai pas envie de les gommer. Pourquoi j'ai pas envie de les gommer? Parce que les séminaires pour pâte dentifrice, parce que les produits marketing, parce que, j'allais dire, les plats cuisinés transformés. Les Français, ils en ont ras-le-bol.
Ça fait sourire, Nathalie. Françoise Fressoze. Et Nathalie.
Les nouveaux critères alimentaires.
Moi, je préfère la politique bio, vous voyez. Je préfère qu'on sache d'où je viens, on sache ce que je pense, que je sois en cohérence avec mes convictions et avec ce que je dis. Et,
non, mais vous avez forcément des regrets.
Ça sert à quoi les regrets? Vous connaissez la phrase de Mandela? Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Bah, c'est vrai, tout le monde l'utilise un peu dans tous les
j'ai
sens.
J'ai beaucoup appris, bah oui, mais pourquoi pas? Moi, je l'ai rencontré Mandela. Ça fait peut-être une toute petite différence, non pas que ce soit contagieux, mais ça m'a impressionné. Ce que je veux dire, c'est que avec tout le portrait absolument épouvantable que vous venez de faire,
pas épouvantable, juste, vous l'avez reconnu vous-même, Nathalie
Loiseau.
C'est vert,
mais juste. C'est vous qui le dites. Non, mais je reconnais des aspérités et je les revendique.
Pourquoi? Alors justement.
Parce que avec tout ça, j'aurais dû finir au fin fond du score des élections européennes. J'ai fini avec autant de députés que le Rassemblement national en pleine crise de gilets jaunes. Tout ça avec ma première campagne, une campagne nationale à mi-mandat du mandat d'Emmanuel Macron. Eh ben écoutez, honnêtement, on pouvait faire mieux. J'ai pris la place de personne. Il y a eu des primaires, j'ai marché sur les pieds de quelqu'un, je m'en souviens pas.
Alors parlons justement des défauts, de la manière dont ils sont examinés, de la manière dont on peut les surmonter, puisque cette semaine se poursuivaient les auditions des futurs commissaires européens devant les eurodéputés. Mercredi, c'était au tour de la Française Sylvie Goulard. Elle a demandé au cours de son audition plus de 10 fois aux eurodéputés de lui accorder leur confiance, en vain. À l'issue de son audition, elle n'a pas obtenu les voix nécessaires pour être nommée commissaire au marché intérieur, en charge de la politique industrielle, de la défense et de l'espace. Seuls les libéraux, dont votre mouvement Renaissance, ont soutenu la candidate française. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Malgré tout, est-ce qu'elle peut encore s'en sortir et comment peut-elle convaincre, comment peut-elle réunir les voix nécessaires pour être nommée et occuper ce poste de commissaire européen?
Alors, elle n'est pas la seule. Vous vous êtes sans doute aperçu qu'il y a d'abord deux commissaires qui ont été retoqués par le Parlement européen pour des questions de conflit d'intérêts, retoqués tout court. Mmh. C'est-à-dire que le Parlement européen, qui est quand même un endroit extrêmement démocratique, c'est un peu comme si chaque futur ministre passait devant une assemblée qui disait « Ben non, là, j'y crois pas, vous sortez oui. ». Il y en a deux qui sont sortis. Il y en a d'autres qui, comme Sylvie Goulard, ont des questions auxquelles ils doivent répondre.
Combien ?
Il y a deux autres candidats commissaires qui doivent répondre à des questions, la suédoise qui s'occupe des questions de migration, le polonais qui s'occupe des questions d'agriculture. S'agissant de Sylvie Goulard, personne ne doute de sa compétence. La question qui, moi, m'a frappée, c'est combien de gens se sont intéressés au sujet de fond.
Mais c'est pas le sujet, hein.
Alors.
Ah bah écoutez.
Vous me parlez du
Hongrois. Vous pensez que c'est pas le sujet? Vous nous pensez que c'est pas le sujet?
C'est pas le sujet en l'occurrence. Le Hongrois qui a été retoqué, ouais. celui dont vous parlez, l'a été pour des raisons de conflit d'intérêts.
Absolument.
Pas parce qu'il était incompétent. Mmh. On se demande juste s'il est possible d'être rémunéré par un think tank et une somme qui totalement autorisé, hein, 10 000 euros, et qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on a fait pour ce boulot, pour cette rémunération. Même si on est un génie de l'Europe, si on parle 18 langues, ça n'est pas le sujet.
Alors, d'une part, vous dites que ça n'est pas le sujet, vous rappelez qu'effectivement, il y a deux personnes qui ont été retoquées pour des questions de conflit d'intérêts. Pas Sylvie Goulard, elle est passée devant la même commission des affaires juridiques qui a considéré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts avec Sylvie Goulard. Maintenant, on va parler du think tank dans lequel elle a travaillé.
Justement, alors pour que les choses soient claires et que tout le monde comprenne, Sylvie Goulard a dû répondre sur son travail de consultante, consultante supposée pour un think tank américain, l'Institut Berggruen, que nous avons pour la plupart découvert à cette occasion, entre 2013 et 2015. Elle était eurodéputée, Sylvie Goulard, et cet institut l'a rémunérée plus de 10 000 euros par mois, ce qu'elle avait déclaré à l'époque.
Ce qu'elle avait déclaré, c'était légal, elle s'en est pas cachée. Alors, l'Institut Berggruen, effectivement, beaucoup de gens l'ont découvert. Est-ce que vous savez qui d'autre que Sylvie Goulard travaille pour l'Institut Berggruen ?
Mario Monti. J'en avais un autre, mais je l'ai pas.
Jacques Delors.
Ah oui, Jacques Delors.
Jean Pisani-Ferry, Joseph Stiglitz, Romano Prodi, Tony Blair, Pascal Lamy.
Alors, point quand commun, j'entends. Aucun d'entre eux n'est commissaire européen.
Pascal Lamy l'a été. Elle n'est plus à Berggruen.
Il ne l'est plus.
Ben, elle n'est plus à Berggruen. Elle n'y travaille plus depuis 2015.
Non, mais, la question, c'est juste qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Est-ce qu'on a un rapport? Est-ce qu'on a, c'était quoi le travail?
Je suis pas Sylvie Goulard. C'est à elle.
Non, mais
dire
j'ai compris. Moi, je suis pas, je
mais moi,
ce,
la question que je me pose, c'est qui a posé ce type de question à Sylvie Goulard pendant l'audition? Thierry Mariani et Virginie Joron, deux députés Rassemblement National, l'ont accusé en quelque sorte d'intelligence avec une puissance étrangère parce que le think tank est américain. Je vous ai rappelé, on a essayé de lister ensemble le nombre d'Européens qui travaillent dans ce think tank qui est résolument pro-européen. Thierry Mariani et Virginie Joron, qui nous donnent des leçons de patriotisme au retour de Damas, où ils sont allés poser avec Bachar el-Assad, et où ils ont expliqué à leur retour que les rues de Damas étaient plus propres et plus sûres que les rues de Paris.
Non mais d'accord, franchement, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur, malgré tout, de la part d'Emmanuel Macron, d'avoir choisi, certes, cette candidate manifestement très compétente, en tout cas tout le monde le dit, mais
je vous remercie de le dire, parce que vous avez quand même, vous avez deux
judiciaires,
partis politiques.
Et ce n'est pas rien.
Vous avez deux partis politiques, le Rassemblement National et les Républicains, l'un dans la roue de l'autre, qui n'y ont pas posé une seule question de fond pendant 3 heures d'audition.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a une erreur de la part
de Emmanuel Macron ? On s'en fiche. La politique industrielle, on s'en fiche. Le numérique, la digitalisation,
le problème n'est pas là, Madame Loiseau. Le problème, c'est est-ce que
Françoise
la France,
Fressoz,
qui compte quand même, qui veut être un partenaire triple privilégié en Europe, peut se permettre de présenter une candidate qui est fragilisée. Il y avait cette affaire aussi.
Et je rappelle, aussi, justement, pour compléter, oui, Françoise, que Sylvie Goulard a été interrogée sur les enquêtes dont elle fait l'objet dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem.
Et elle n'est pas même
elle
se dit qu'il faut qu'elle démissionne du gouvernement à cause de cette affaire dans laquelle elle n'est pas mise en examen. Mais là où il y a une incohérence, c'est pourquoi elle pourrait se présenter devant le Parlement européen alors que d'elle-même, elle a pensé qu'elle ne pouvait pas rester au gouvernement français à cause de cette affaire.
Nathalie Loiseau.
On s'en souvient tous, ça a été son choix. Sylvie Goulard a quitté le ministère des Armées parce qu'elle voulait pouvoir prouver sa bonne foi et son intégrité. Elle a souhaité le faire de cette manière-là. Ça la regarde. Moi, j'ai aucun doute sur la bonne foi et sur l'intégrité de Sylvie Goulard, que je connais depuis longtemps. D'ailleurs, pendant l'audition, elle s'est expliquée sur le collaborateur parlementaire. On parle de quoi ? Elle a expliqué qu'elle avait eu un collaborateur parlementaire pendant 5 ans et qu'au moment où elle avait voulu s'en séparer, elle n'avait pas voulu le licencier, qu'elle l'avait laissé chercher du travail et donc ne plus travailler pour elle pendant plusieurs mois en continuant à le rémunérer.
Mais elle n'a pas convaincu les eurodéputés.
Est-ce que ça fait d'elle une criminelle? Elle n'a pas convaincu les eurodéputés,
non.
Elle n'a pas été retoquée, elle va répondre à des questions, on verra à la fin de l'histoire, vous l'avez dit, l'histoire n'est pas finie. Vous savez, j'ai pas de boule de cristal, ce que je note, c'est que certains ont fait de la politique politicienne, que ceux qui n'ont posé des questions que là-dessus, sans s'intéresser au fond, sont des gens qui se sont fait élire par leurs compatriotes pour travailler sur des questions européennes, et qui font de la politique politicienne de petit niveau, en étant eurodéputée. Donc, je trouve ça regrettable.
Vous pensez qu'elle va passer de justesse, mais qu'elle peut passer lors de la deuxième audition?
Là encore, j'ai pas de boule de cristal. Je le souhaite en tout cas, parce qu'elle est faite pour ce job-là.
Autre question, alors, Karine.
Je rebondis sur la politique politicienne. Vous parlez du Rassemblement national. Est-ce que malgré tout aussi Emmanuel Macron, en s'en étant pris au PPE, le premier groupe parlementaire au Parlement européen, en s'en étant pris notamment à son Spitzenkandidat, Manfred Weber, est-ce que il va pas le payer très cher finalement? Est-ce que c'est pas ce qu'il est en train de payer là?
Vous savez, il s'en est pris au PPE, non? Parce que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dont le nom a été quand même beaucoup inspiré par Emmanuel Macron, elle est PPE. Donc le PPE, il préside la Commission européenne aujourd'hui avec l'aide d'Emmanuel Macron.
Mais pas par celle qui voulait...
Est-ce que Manfred Weber est vexé de ne pas avoir eu ni de majorité au Parlement, ni de majorité au Conseil européen? C'est pas Emmanuel Macron qui l'a empêché d'être président de la Commission. Il avait de majorité nulle part. C'est sûrement pas très agréable pour lui. Je le connais bien, on travaille régulièrement. D'ailleurs, je l'apprécie. C'est sûrement pas très agréable. Si, parce que il a eu ce désagrément, il a laissé faire de la politique politicienne dans l'audition de Sylvie Goulard.
Il ne vous en veut pas, en tout
c'est
cas, pour les propos
pas.
Que vous avez tenus sur lui au moment
Écoutez,
où vous êtes arrivé au Parlement européen.
J'ai jamais dit différemment les choses en face et en off. Il le sait, Manfred Weber, que j'ai jamais roulé pour lui. J'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas l'expérience, tout simplement, pour être le patron de la Commission.
Sujet
il
n'a
jamais été ministre.
Et d'actualité, en l'occurrence, Nathalie Loiseau, sur la scène européenne, c'est le dossier du Brexit dont vous avez eu la responsabilité lorsque vous étiez au gouvernement. Dossier fou du Brexit. On apprend que Boris Johnson serait prêt aujourd'hui et, contrairement à tout ce qu'il avait dit, à demander à l'Union un report du Brexit. Personne n'est capable de dire aujourd'hui s'il y aura deal, no deal ou report. Aidez-nous à y voir plus clair.
Avec le Brexit en 2 minutes, on va essayer de le faire. Aujourd'hui, de quoi on parle? D'abord, ce qui est absurde, c'est que ça fait 2 ans qu'on parle des conditions de notre séparation.
Oui.
On n'a même pas encore commencé à parler de notre relation future. C'est vraiment le divorce qui se passe mal. Du côté de Boris Johnson, il a dit à peu près tout et le contraire de tout. Il a dit « je veux pas d'élection anticipée », puis il a tout fait pour en avoir et il a échoué au Parlement britannique. Il a essayé de suspendre le Parlement britannique pendant 5 semaines pour être questionné par personne. Et moi, en tant que parlementaire, j'ai vraiment souffert de voir cette démocratie britannique qui est un peu notre modèle à tous, abîmé par ce comportement, finalement.
Mais qui, finalement,
il a été condamné par la justice.
Quand même.
Justice lui a dit, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, le Parlement a le droit de siéger, heureusement. Après, il nous dit, je veux un accord, personne plus que moi ne veut un accord. Alors on lui dit, très bien, on est prêt, on attend. Il arrive avec une proposition totalement inacceptable. Alors, il y a un moment où il y a un problème de confiance, et il y a un problème de bonne foi. Quand vous négociez à la fois entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et quand lui doit essayer de construire sa majorité au Parlement britannique, il faut un peu de confiance et il faut un peu de bonne foi. On peut pas dire que pour le moment, il ait mis énormément d'énergie pour construire l'Union
européenne. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qu'on va vivre? Je vous demande votre pronostic.
Le Parlement européen qui a examiné
question,
sa proposition a dit...
La France et l'Allemagne sont d'accord sur la façon de le traiter dans les semaines qui vont venir.
Alors, on a regardé la proposition de Johnson, on y a pris le temps, on a regardé en détail et avec envie que ce soit la bonne. Honnêtement, parce que cette histoire sans fin, plus personne n'en peut plus, on a besoin de passer à l'étape suivante.
Donc sa proposition sur l'Irlande.
Sa proposition sur l'Irlande et puis sur nous aussi. Nous, c'est très simple, nos priorités elles sont connues depuis le début, elles sont claires, elles sont d'ailleurs inscrites, le mandat de Michel Barnier est sur Internet, donc il n'y a rien de plus transparent. On ne veut pas remettre de la violence en Irlande. On ne veut pas déstabiliser une île qui a connu une guerre civile dramatique. Et on ne veut pas non plus exposer nos consommateurs et nos entreprises européennes à voir arriver du jour au lendemain, dans nos assiettes, sur nos marchés, des produits qui ne respectent pas les mêmes normes. C'est ça, nos priorités.
Voilà,
la proposition de Johnson, elle ne tient pas la route. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est obligé, par le Parlement britannique, s'il n'arrive pas à un accord avec nous, de demander un report. Donc il y a fort à parier, il y a des fuites que vous avez mentionnées,
la BBC, ouais,
disant que ça ne lui plaît pas beaucoup, ça ne lui plaît même pas du tout, puisqu'il a expliqué plutôt crever dans un fossé que de demander un report. On a l'impression qu'il va être obligé de le demander. Après, évidemment, on pourrait dire, bon, ça dépend si on en veut ou si on n'en veut pas.
Alors justement, donc, si on vous demande un report, qu'est-ce que vous
répondez ? Il faut qu'il nous montre un petit peu le bout du chemin, parce que les Britanniques ont voulu partir. Très bien, c'était leur décision, c'était pas la nôtre. Nous, franchement, on considère que face au nombre de défis auxquels on est confrontés aujourd'hui, on a parlé du terrorisme, on pourrait parler du défi environnemental ou de tout le reste, on est mieux ensemble, réunis, que séparés. Ok, ils veulent sortir. Pour le moment, il ne nous a toujours pas expliqué comment il sort, ni vers où il va. C'est vrai qu'il y a une impatience.
Mais en vous écoutant, on se dit que le deal qu'il vous propose est inacceptable et que donc, il y aura report ou que vous refuserez un report.
Alors, est-ce que les 27 vont accepter un report ? Je ne suis plus membre du Conseil, moi je suis parlementaire, donc je ne parle pas.
Non, mais vous connaissez les rapports de force.
Je pense qu'on a envie de laisser une chance à une sortie ordonnée. Moi, je pense par exemple aux pêcheurs français. Si demain
avec
il n'y a pas d'accord,
je pense non.
On ferme et du jour au lendemain, les pêcheurs français peuvent plus pêcher dans les eaux britanniques. Mmh. J'ai pas envie qu'ils soient confrontés à quelque chose d'aussi absurde et d'aussi dur pour eux. Simplement, pour arriver à un accord, il faut être deux et on peut pas dire que notre partenaire nous aide beaucoup pour le moment.
Alors, en même temps, sa situation, elle est compliquée au sein du pays. Est-ce qu'il peut tenir encore longtemps au final, Boris Johnson ?
Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est un Premier ministre qui n'a pas de majorité. Alors, est-ce qu'il déclenche les élections ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une décision britannique, là, pour le coup, nous n'avons rien à en dire. On n'a pas à se mêler de la politique, j'allais dire politicienne britannique, mais on a à se mêler du Brexit parce que ça a des conséquences sur nous tous, sur nos entreprises, sur nos concitoyens, sur aussi les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne, sur les Européens, notamment les Français qui vivent au Royaume-Uni, donc ça nous regarde.
Mais ces élections, elles auraient le mérite de remettre en phase la classe politique et le corps électoral ?
Sans doute de clarifier un peu le discours, soit des élections, soit un deuxième référendum. Parce qu'on voit bien que ce qui a été voté en 2016, quand on nous dit « vous n'êtes pas démocrate, vous ne voulez pas accepter la mise en œuvre de la décision populaire ». Aujourd'hui, j'entends par exemple les gens du parti de Monsieur Farage, le Brexit Party, dire « Nous, ce qu'on veut, c'est faire Singapour sur Tamise, on dérégule complètement le droit du travail, on le fiche en l'air, la protection de l'environnement, ça nous intéresse plus, on part dans un modèle complètement différent. » Je me souviens pas qu'il ait dit ça en 2016. Je ne me souviens pas que les Britanniques aient voté en sachant que c'est ça qui les attendait. Donc je pense qu'il faut en effet, à un moment, revenir vers le peuple. Peut-être que la décision sera la même, peut-être qu'elle sera en tout cas mieux informée. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est très facile de regarder avec un peu de distance et un peu d'incompréhension la démocratie britannique claudiquer. C'est aussi un énorme échec européen ce qui s'est passé. Pourquoi en 2016 personne n'est allé dire aux Britanniques, l'Union européenne, elle a des défauts aujourd'hui, on veut la réformer, on est conscient qu'elle n'est pas assez proche des citoyens, on a de l'énergie, on veut y aller, on veut en faire quelque chose, c'est notre maison commune. À l'époque, ça a été un silence de mort. Il ne faut pas s'étonner que derrière, il y ait eu un référendum avec des conséquences aussi dramatiques.
Françoise Fressoz.
Vous vous souvenez de la campagne européenne, de ce que Emmanuel Macron avait vendu aux Français, c'est-à-dire une possibilité de changer les orientations européennes avec une nouvelle majorité, votre groupe serait le pivot. Là, on voit la nouvelle Commission européenne assez enlisée dans les histoires de nomination. On voit le Brexit qui n'en finit pas. Comment convaincre les Français qu'il va se passer quelque chose en Europe de positif pour eux ?
Nathalie
Loiseau. Enlisée dans les questions de nomination, je suis pas d'accord avec vous. On a jusqu'au 24 octobre pour confirmer cette commission. Elle sera confirmée. S'il y a des gens qui faisaient pas l'affaire, ils faisaient pas l'affaire. Je l'ai dit, c'est un bel exercice de démocratie. Et j'aimerais bien que dans beaucoup d'États membres, il y ait cette transparence et cette connaissance, finalement, des gens à qui on va donner des responsabilités. Évidemment qu'on avance, évidemment qu'on en a besoin d'abord. Regardez ce qui vient de se passer sur les États-Unis et Airbus.
On allait en parler justement avec Nathalie Saint-Cricq.
Bon, on y arrive.
Nathalie, rappelez-nous les faits, puis on entendra.
Simplement, je voudrais comprendre comment les Français peuvent aimer l'Europe ou être attachés à l'Europe quand ils se prennent dans la figure un matin. Un truc tout d'un coup, c'est que les États-Unis, avec la bénédiction de l'OMC, autorisent l'augmentation des droits de douane pour bloquer un certain nombre de produits français. Alors on nous dit qu'on va se battre, que l'Europe va se battre. Comment est-ce que ça peut se produire des choses pareilles? Et résumé.
Très bien. Et c'est beaucoup plus clair. Et du coup, on peut comprendre votre réponse, Nathalie Loiseau.
Merci. Ah ben, on va essayer. Mais justement, imaginez qu'on soit tout seul face à ces sanctions prises par les États-Unis, par Donald Trump.
On est nombreux, d'accord.
Imaginez qu'on soit tout seul. On bougerait nos petits bras, ça ferait beaucoup rire Donald Trump, qui se dirait même pas peur. Ce qui va se passer, c'est qu'on a une capacité de répondre, bah, finalement à 28, puisque les Britanniques ne seront pas encore sortis, ou sinon à 27. Dans le même temps où le dossier d'Airbus a été examiné, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, Airbus a été accusé de bénéficier de subventions d'aide d'État. Il y a le même dossier à l'Organisation mondiale du commerce pour Boeing.
Oui.
Et d'ici 6 mois, il y a fort à parier que les mêmes causes produisant les mêmes effets, Boeing sera là aussi pointé du doigt comme ayant bénéficié de subventions américaines. Est-ce que vous imaginez que la France
on
pourrait
en est à
réagir
les doigts.
Toute seule ?
On en est à croiser les doigts,
on
Nathalie Loiseau.
On n'en est pas à croiser les doigts. On sait que c'est la même chose des deux côtés. Alors, ce qui aurait été intelligent...
Alors, ça veut dire quoi ?
Ça aurait été plutôt que dégainer des tarifs douaniers. La guerre commerciale, ça ne fait que des perdants, et notamment des entreprises.
Mais ça, c'est la raison. Là, pour l'instant, la mondialisation heureuse, les gens, je veux dire, ils la voient pas tous les jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire?
On a jusqu'au 18 octobre pour négocier avec Trump, pour lui dire,
et ça,
fais attention.
Vous souhaitez? Vous
Bien
souhaitez
sûr.
Qu'il y ait une négociation?
Bien sûr, pour lui dire, fais attention, parce qu'il va t'arriver exactement la même chose dans quelques mois. Donc, soit on range les flingues et on se parle enfin calmement et on se dit que des relations commerciales basées sur la méfiance entre l'Europe et les États-Unis, alors qu'aujourd'hui la vraie question
sauf
c'est
que
la
Trump
Chine.
Trump vous dit même pas peur.
C'est absurde.
Et de la même manière qu'avec la Chine, il leur dit même pas peur.
Oui, sauf que très et souvent il est trop pédale derrière et il fait la même chose en matière de sécurité, par exemple avec la Corée du Nord, en disant moi je suis un deal maker, je sais m'y prendre avec Kim Jong-un. Ben résultat, hier les Nord-Coréens ont claqué la porte. Apparemment, ils n'ont pas peur de Trump. Il faut arrêter cette espèce de politique de gros bras, de grosses voix, continuant à dire on va jusqu'au bord de la falaise sans scier, puis on va bien voir ce qui se passe. Un jour, il y en a un qui va tomber. Il faut un peu que la raison revienne, que le multilatéralisme revienne. Et là-dessus, là où je suis pas complètement d'accord avec vous, Nathalie Saint-Cricq, c'est que les Français, ils l'ont très bien compris. Jamais autant de gens n'ont voté aux élections européennes que cette fois-ci. Jamais autant de jeunes n'ont voté aux élections européennes que cette fois-ci. Il y a des attentes très fortes. Ça veut dire que on n'a pas intérêt à se rater. Ça veut dire
décevoir,
qu'on a des fortes responsabilités qu'il faut pas décevoir. Mais ça veut dire que beaucoup de gens aujourd'hui en Europe ont compris que pour s'en sortir face à la Chine, face à la Russie, face à Trump, c'était pas en ordre dispersé qu'on allait y arriver. C'était en se réunissant.
Françoise, et on revient en France ensuite.
Parmi les fortes demandes, il y a l'écologie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre fonction au Parlement européen pour prouver aux Français que Emmanuel Macron ne se contente pas de parler, mais agit aussi?
Alors d'abord, au niveau national, il s'est pas contenté de parler. Vous vous souvenez de l'échange qu'il a eu à Rodez avec ce jeune qui lui disait « vous faites que des hashtags ». Ben, en fait, de faire que des hashtags, il y a déjà l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Personne l'avait fait, il l'a fait. Il y a déjà la fermeture en cours de Fessenheim. Il y a déjà la fermeture des centrales à charbon. Donc il y a des choses qui avancent. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu la Montagne d'Or en Guyane. Donc on peut pas dire qu'au niveau national, Emmanuel Macron ne fasse rien. Mais on sait très bien qu'il y a des sujets qui sont de niveau européen compte tenu de l'ampleur du défi. Et là encore, Ursula von der Leyen, quand elle a expliqué son programme
en juillet, la future présidente de la Commission,
elle a expliqué qu'elle allait faire une banque européenne du climat, parce que s'il nous faut 1 000 milliards d'euros, c'est pas 1 000 milliards d'euros d'argent public. Alors je sais que la France insoumise pense qu'on peut faire marcher la planche à billets, personne ne le souhaite. On va orienter l'investissement privé vers la croissance verte, et puis la taxe carbone aux frontières, on va pas la faire au niveau national, ça n'existe pas, on va la faire au niveau européen.
Est-ce que vous pensez que ça peut être fait dans les années qui viennent,
la taxe carbone aux frontières? Mais bien sûr, et là encore Ursula von der Leyen s'y est engagé. Le commissaire à l'environnement, quand il a été auditionné, s'y est engagé. Donc c'est en cours. Bien sûr que c'est une attente forte. Bien sûr que c'est pour ça que des jeunes Européens sont allés voter. Ils ont raison et on ne les décevra pas.
L'eurodéputée Nathalie Loiseau est l'invitée de France Info, du journal Le Monde et de France Inter aujourd'hui.
Question politique sur France Inter.
Une question politique qui sera examinée à partir de demain à l'Assemblée nationale, Nathalie Loiseau, c'est celle de l'immigration, débat souhaité par le président de la République. Vous avez peut-être lu cette tribune signée par 6 députés européens socialistes français élus en mai dernier, comme vous, qui conseillent au président de la République de regarder en face les questions de migration sans reprendre les poncifs de l'extrême droite. Je les cite, Macron devait être un barrage à l'extrême droite, il est une passerelle. C'est la conclusion qu'il tire de la manière dont est posé ce débat aujourd'hui par le président de la République et dont vont s'emparer les parlementaires.
J'aurais pas la cruauté de rappeler à mes collègues socialistes européens le score qu'ils ont fait. En tout cas, comme barrage à l'extrême droite, c'était pas eux. Ça, c'est clair. Je pense que le meilleur moyen de rassurer les Français, de les écouter, et d'aller de l'avant sur les questions migratoires sans en laisser le monopole à l'extrême droite, parce que c'est quand même bien ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ça a été le fond de commerce de l'extrême droite, les questions migratoires, avec des aberrations, avec une volonté systématique de faire de l'autre, de l'étranger, celui qui est l'origine de tous nos maux.
Mais enfin, c'est une loi sur l'asile et l'immigration a été votée par les parlementaires français, par votre majorité, Nathalie
Absolument.
Loiseau, c'était il y a un an.
C'est tout à fait vrai, mais il se passe quelque chose aujourd'hui, et ça, ce sont des faits, c'est que il y a beaucoup moins d'arrivées de migrants illégaux ou de demandeurs d'asile en Europe, mais que jamais il n'y en a eu autant en France. Nous sommes les champions d'Europe des demandes d'asile.
Alors, justement,
on est à plus de 100 000 demandes d'asile par an, 120 000 à peu près, si mes chiffres sont exacts. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui doit d'abord trouver une solution européenne. Nous plaidons, j'ai plaidé pendant la campagne des européennes, le président de la République plaide au Conseil européen pour une politique européenne de l'asile. On ne peut pas avoir des pays européens qui ont tous des procédures et tous des critères différents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déboutés du droit d'asile d'autres pays européens qui viennent en France comme deuxième lieu dans lequel ils tentent leur chance.
Nathalie Sacré.
Alors, vous aviez parlé pendant il y a quelques temps de shopping de l'asile. Tout le monde avait poussé des cris d'orfraie en disant que c'était épouvantable. Vous aviez été obligé de vous excuser. Gérard Collomb a parlé de benchmarking, c'est-à-dire en gros l'idée que les gens qui cherchent l'asile font leur marché entre les pays pour voir ce qui est le plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant en France qui ferait que les demandeurs d'asile viendraient et qu'est-ce qu'il faut enlever à la France pour qu'elle soit au niveau des autres pays européens? Et deuxièmement, est-ce que vous vous sentez réhabilité par Emmanuel Macron qui tient le même discours que vous aujourd'hui?
Nathalie Loiseau.
Alors, shopping de l'asile, je l'ai dit, c'est une expression atroce. Et mon défaut, c'est d'avoir été tellement imprégné de travail européen que cette expression qui est utilisée tous les jours par la Commission,
c'est ce
Parlement
Macron
européen,
dit aujourd'hui, différemment,
j'ai fini par le sortir. Mais c'est atroce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ce sont des malheureux qui choisissent où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Ça veut dire que ce sont des trafiquants d'êtres humains qui profitent de la misère et de la fragilité, de la vulnérabilité de malheureux, en leur disant « je t'amène un jour là, je t'amène un jour là ». Et finalement, ce sont les trafiquants d'êtres humains qui décident qui entre en Europe et qui rentre en France. Ça, c'est pas supportable.
Mais d'accord, mais pourquoi ils viennent? Alors, c'est quoi? Vous connaissez ça bien, normalement. Qu'est-ce qu'on a
de plus que
les autres n'ont pas?
D'abord, ils viennent quand ils sont retoqués ailleurs. Souvenez-vous, Angela Merkel qui avait dit « on y arrivera » quand elle avait accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile en Allemagne en 2015. Il n'y a pas plus d'un million de gens qui ont été finalement, qui sont restés en Allemagne. Il y en a un certain nombre.
Mais
qui
la situation
sont
n'est
débutés,
plus du tout la même. Le nombre de migrants qui arrivent en Europe est au plus bas.
Exactement.
Justement, cette
on est
année.
Bien d'accord.
70 000 contre 1 million.
On est bien d'accord
en 2015.
Et on est tout à fait d'accord que l'extrême droite a voulu, notamment Salvini, souvenez-vous, faire créer une crise politique là où on n'était pas dans une crise migratoire. Mais on ne peut pas dire, à un moment où il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile en France, qu'il n'y a pas un sujet.
Non, mais je vous le dis
pas. Et ces demandes d'asile, elles sont notamment.
Est-ce que c'est le regroupement
regardez
familial,
les nationalités,
les aides sociales,
regardez
la
les
couverture maladie, c'est quoi?
C'est par exemple des Albanais, des Géorgiens, ce sont des réseaux mafieux. Parler, comme moi je l'ai fait en tant que ministre ou pendant la campagne, avec des associations d'accueil des demandeurs d'asile qui vont dire qu'elles ont peur, parce qu'elles ont parfois des véritables criminels.
Plus de demandeurs
qui sont
d'asile,
à
mais ça
porte,
ne veut pas dire qu'on accorde davantage de titres à ce titre-là.
Non, mais par exemple,
au contraire, selon, ben,
selon les nationalités, vous avez pas, vous n'êtes pas traité de la même façon d'un pays à l'autre. Et ça, les trafiquants le savent très bien. Ils savent très bien, par exemple, que quand vous êtes albanais en Allemagne, les chances, entre guillemets, que vous soyez reconnu comme réfugié sont quasiment proches de zéro. Elles sont un tout petit peu plus élevées en France. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que beaucoup d'Albanais sont reconnus, mais ça veut dire que le temps que la procédure se déroule, ce temps qui est trop long, bah finalement, les gens restent en France.
Et vous avez le sentiment que c'est en ayant le discours qu'on entend là, à l'instant, qui vont convaincre les Français face aux arguments hyper efficaces de Marine Le Pen. Ma question, c'est est-ce que en présentant des situations, des faits, des chiffres qui sont très rationnels, est-ce qu'on va réussir à contrer finalement l'irrationalité de l'angoisse collective qu'il y a autour de l'immigration ?
Nathalie Loiseau.
Karine Bécard, j'aurais envie de vous dire, écoutez tout ce que vous venez de dire. Vous venez de parler d'arguments très efficaces de Marine Le Pen. C'est vous qui le dites.
Efficace électoralement, j'ai le sentiment quand même, non ?
Bah, moi, j'en suis pas sûre. Parce que ces élections européennes, qui normalement sont le triomphe des extrêmes, le Rassemblement national a moins bien réussi en 2019 qu'en 2014.
Ils arrivent en tête malgré tout.
Ils arrivent en tête, on a autant de députés. Dans une crise qui était celle des Gilets jaunes, qui était extrêmement difficile, dans une élection qui se fait à la proportionnelle, et dans une élection où, malheureusement, beaucoup de Français pensent que c'est possible d'avoir un vote protestataire et que ça n'a pas de conséquences immédiates. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à la présidentielle et aux législatives. Vos arguments, soi-disant très efficaces, ils ne fonctionnent pas dans les endroits où il y a le plus de personnes immigrées et de demandeurs d'asile. Regardez la région parisienne, regardez les scores que fait le Rassemblement national. Plus on est éloigné du fait migratoire, plus on est éventuellement susceptible de voter pour le Rassemblement national, parfois pour d'autres raisons, qui sont des raisons de déclassement, qui sont des raisons de vide d'un certain nombre de villes moyennes, qui ne sont pas forcément la question migratoire. Et la démarche qui est entreprise par Emmanuel Macron, par le gouvernement, elle est entreprise à un moment où il n'y a pas d'élection. Parce que c'est le seul moment où on peut parler de ce genre de sujet. D'abord, le but, ce n'est pas d'expliquer. Le but, c'est d'écouter.
Il y a des élections dans 5 mois, hein, quand même.
Savoir ce que les...
Il y a des élections. Des élections. Il me semble justement qu'on parle de l'immigration, parce qu'on arrive dans une succession là, d'élections. Jusqu'en 2022, les élections ne vont plus terminer. Moi, j'ai le sentiment, au contraire, que l'immigration est mise sur la table, parce qu'il va falloir effectivement convaincre une partie de l'électorat qu'a capté Marine Le Pen.
Moi, je pense qu'il faut d'abord écouter l'électorat, écouter ce qu'il a à nous dire, écouter ce qu'il en pense. Moi, j'ai été de ceux qui, quand le grand débat a été lancé, plaidait pour que la question migratoire soit incluse dans les sujets du grand débat.
Et elle n'a pas été évoquée tellement.
Et il y avait, on le sait, c'est pas un scoop, il y avait un débat à l'intérieur du gouvernement entre ceux qui pensaient qu'il fallait le faire et ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas le faire. Mon sentiment à l'époque, alors je ne veux pas faire parler le président de la République à sa place, c'est qu'il aurait été plutôt de ceux qui pensait qu'il était plus sain d'en parler que de mettre le sujet sous le tapis. Je trouve très bien qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale... Bah écoutez, c'est demain.
Il reste 5 minutes.
C'est une très bonne chose.
Françoise Fressoz.
Est-ce que pour rassurer la majorité, il faudrait pas insister aussi à la fois sur la fermeté, mais peut-être aussi davantage sur l'intégration ?
Exactement.
Est-ce qu'il faudrait, par exemple, créer un haut-commissaire à l'intégration ?
Alors, je ne sais pas s'il faut créer un machin. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut travailler davantage à l'intégration, qu'il faut se débarrasser de certaines facilités qu'on a eues pendant des décennies. Moi qui ai beaucoup voyagé en Europe, quand vous allez ailleurs en Europe, il y a beaucoup plus de cours de langue pour les demandeurs d'asile, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas un Suédois qui imagine que l'Érythréen qui vient parle suédois. Nous, pendant longtemps, parce que les migrants venaient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, on se disait, ils sont francophones, c'est pas un sujet. Moi, j'avais, à l'époque, animé un haut conseil franco-allemand à l'intégration pour essayer d'échanger les bonnes pratiques entre les deux pays et éviter les erreurs. Aurélien Taché avait fait un rapport très intéressant sur la question de l'intégration. Et je pense qu'on a énormément à faire dans cette direction-là, parce que parlons des mineurs isolés. On peut se désoler qu'ils aient été les victimes de trafiquants, mais le jour où ils sont là, il faut les intégrer. Il faut faire plus et il faut faire mieux.
Dans l'actualité aussi, Nathalie Loiseau, il y a la Manif pour tous qui se mobilise aujourd'hui contre l'extension de la procréation médicalement assistée. Nathalie Saint-Cricq.
Et au nom de la PMA étant la porte ouverte à la GPA, je voulais vous poser une question assez simple. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Vous étiez prononcée en faveur d'une GPA éthique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, à partir du moment où c'est pas rémunéré, où c'est quelqu'un qui peut porter l'enfant sans qu'il y ait une marchandisation du corps. Est-ce que finalement, les deux décisions qu'il y a eu cette semaine, une décision de la Cour de cassation qui a reconnu la filiation de la famille Menson en disant que c'était
filiation d'enfants nés de la GPA.
Un couple, simplement que leur jumelle puisse être reconnue comme telle. Et que par ailleurs, il y a un amendement qui a été adopté. Alors, ça va être probablement changé par le gouvernement, de proposer une filiation automatique des enfants nés à l'étranger de GPA, c'est-à-dire en gros de ne pas faire, comme on dit, des fantômes. Est-ce que finalement, vous n'aviez pas un peu raison avant de dire qu'il ne fallait pas trop le dire, parce qu'autrement, ça effrayait tout le monde?
Nathalie Loiseau.
Alors, d'une part, la GPA, elle n'est pas sur la table. Le gouvernement
l'a dit. Tout le monde répète ça, mais elle l'est virtuellement.
Non, elle n'est pas sur la table. Elle n'est pas sur la table.
Mais c'est hypocrite.
C'est clair, ça a été dit, ça a été répété. Je peux avoir mes convictions personnelles. C'est pas la position du gouvernement et il n'y aura pas d'autorisation de la GPA. Il faut quand même être clair. Il faut arrêter du côté de la Manif pour tous et de quelques autres de brandir ces épouvantails.
Attendez, c'est Jean-Louis Touraine qui a l'amendement l'autre soir. C'est pas les gens de la Manif pour tous qui étaient dans l'hémicycle.
Mais il a pas. Son amendement ne consiste pas à dire légalisons la GPA et encore moins légalisons la marchandisation des corps. Moi. Pardon de faire cette parenthèse, je suis extrêmement sensible à la question de la marchandisation des corps. Je pense en particulier à un sujet qui aujourd'hui est beaucoup plus massif et de mon point de vue, beaucoup plus préoccupant parce qu'il est là, parce qu'il est légal. C'est la manière dont la pornographie est entrée dans nos vies. La manière dont l'industrie pornographique utilise des femmes souvent précaires. Si ça, c'est pas de la marchandisation des corps. Si ça, ça n'a pas un impact sur la manière dont les jeunes sont élevés.
D'accord, mais si on peut avoir un bébé par GPA dans un certain nombre de pays et que se pose le problème de la filiation de ces enfants, est-ce que finalement, il ne faut pas mettre le sujet sur la table?
Alors, le vrai sujet...
La pornographie, c'est un peu autre
chose. Le vrai sujet, c'est de protéger les enfants, de leur donner des droits. Aujourd'hui, le gouvernement considère que il y a eu l'un des deux qui est le parent biologique et l'autre qui est ce qu'on appelle la mère d'intention. Moi, j'appelle ça la mère de conviction parce que choisir soit dans une PMA pour toutes, soit dans une GPA, c'est vraiment vouloir être parent parfois beaucoup plus que des gens qui ont eu des enfants de manière dite naturelle. Mais en tout état de cause, ce qui compte, c'est la sécurité juridique de ces enfants. Le gouvernement dit, c'est possible, aujourd'hui, ils ne sont pas sans papier, il suffit qu'ils soient adoptés. On a vu avec le jugement de la Cour de cassation que ça peut prendre de très nombreuses années, que ça met malgré tout ces enfants et ces familles dans une instabilité juridique. Moi, je salue la décision de la Cour de cassation parce que je voyais ces petites jumelles depuis, je crois, plus de 18 ans, confrontées à une situation juridique
instable. Mais ça veut dire qu'une GPA éthique, vous seriez favorable à ça?
Attendez, mes convictions n'intéressent personne, je ne suis pas au gouvernement.
Oh, si.
Le gouvernement n'est
ça,
pas
un citoyen,
chacun a ses convictions. Je respecte ceux qui ont des convictions différentes. Simplement, j'entends parfois dans ceux qui vont manifester cet après-midi des mots que je trouve malheureux. Quand j'entends parler sur la PMA pour toutes de malédiction, je trouve que c'est jeter l'opprobre sur des femmes qui ne sont pas dans le désir d'enfant comme si c'était un désir égoïste, qui sont dans le don de soi, et rien de plus beau que le don de soi.
Question courte, réponse courte. Françoise Fressoz.
En France comme en Europe, vous aviez théorisé la grande bataille entre les populistes et les progressistes. Aujourd'hui, qui est en train de gagner la bataille, selon vous?
Elle n'est pas finie. La construction européenne, c'est un chemin. Et cette bataille entre les progressistes et les populistes, il faut continuer à la mener, parce qu'on le voit dans le monde, Bolsonaro, son mépris pour les populations indigènes et son mépris pour les LGBT, il est au pouvoir aujourd'hui. Et quand l'Union européenne négocie un accord avec quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement parce qu'il est populiste, cette bataille, il faut la mener. Elle est loin d'être gagnée et elle est loin d'être perdue aussi. Ce que je vois, par exemple,
Qu'est-ce qui vous fait espérer? Parce que là, on voit quand même une poussée des populistes.
Regardez l'Italie. On nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Salvini va nommer un commissaire italien qui sera un populiste. Et de toute façon, le prochain président du Conseil italien, ce sera Salvini. Raté. Il s'est tiré dans le pied tout seul. Ces hommes qui parlent très fort sont pas toujours des hommes forts. Ce sont des gens qui vivent de la crise, qui vivent du problème, qui les résolvent jamais. Alors ça nous met une pression. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement italien, il n'a pas le droit de se rater, nous non plus.
Et ce sera le mot de la fin. L'émission se termine. Merci Nathalie Loiseau d'avoir été notre invitée. Bon dimanche. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi et à toutes les équipes de Questions Politiques. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.